je suis censé donc vous parler du sujet adolescence, la quête de l'identité. Adolescent, la quête de l'identité, parce que l'adolescence, c'est chacun d'entre vous. Alors, ça n'est pas très très simple, hein, parce que je ne sais pas qui vous êtes, mais vous voyez quand même sur la tribune un monsieur que vous percevez nettement âgé. Donc je vous dis tout de suite, pour pas qu'il y ait de questions là-dessus, 29 mai 1948. Donc, plus de 60. Grâce à ça, l'Université de Tous les Savoirs m'a payé un billet avec un billet senior. Peut-être que j'ai été invité d'abord pour ça, parce que je coûte moins cher. Faut pas se faire d'illusions. Alors, j'ai été adolescent et vous allez me dire que c'est vieux. Vous avez raison. Donc, une partie de ce que je vais vous dire, ce n'est pas mon adolescence, même si je parlerai de mon adolescence, pour une raison que vous comprendrez tout à l'heure. C'est que donc, derrière, même si je ne vais pas vous raconter les enquêtes, etc., mais derrière, il y a une série de travaux, hein, puisque les sociologues, c'est comme pour tout à l'heure sur la vente, on va aller voir les gens et on va voir quel sens ça a. Donc on a été voir et on a suivi. L'enquête au départ était même franco-allemande, puisque c'était une comparaison. Alors, par rapport donc à l'adolescence, je vous dis tout de suite ce qui, moi, m'intéresse par rapport à l'adolescence. C'est pas, soyez pas vexés hein, de ce que je veux dire, c'est pas d'abord les adolescents. Mais en sociologie, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, on prend un groupe ou une pratique et on essaye de voir par rapport à des questions qu'on se pose. Par exemple, peut-être mon prochain livre, ce ne sera pas mon prochain parce que j'ai sorti un manuel de sociologie, mais après, ça sera un livre sur les problèmes de comment on se reconstruit après une séparation conjugale. Là, c'est pareil, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse pour, en fin de compte, effectivement, dans le sujet, ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment, c'est de ça on va parler, qui fait qu'on est déjà beaucoup plus à égalité, les vieux et les jeunes, c'est qu'est-ce que ça veut dire devenir soi-même, être soi-même. C'est une des questions que vous vous posez, même si vous ne la posez pas comme ça, et d'autres aussi plus âgés se la posent. Donc, derrière, je préfère utiliser plutôt la notion de construction de soi que quête de l'identité. La quête, c'est parce que moi, je suis un vieux catholique. Quand j'allais à la messe, il y avait la quête. J'avoue que ce mot, depuis, me paraît moins attractif que les personnes qui ont fait l'affiche. Et pendant les vacances, il y avait même deux quêtes. Alors ça, c'était l'enfer. Il y avait la quête pour l'Église, et après, il y avait une dame qui était là et qui passait devant chacun d'entre nous, et tant qu'on n'avait pas donné, elle restait. Alors pour les garçons, c'était la grande plaisanterie, c'était éventuellement d'arriver à mettre un bouton de braguette. Hein. Comme ça, c'était celui qui avait réussi à faire passer la pièce et tout, c'était pour les chaises. Donc d'ailleurs, peut-être que pour le lycée, il y a sûrement des besoins, peut-être tout à l'heure, on fera une quête pour les chaises, pour l'entretien des chaises. Donc l'adolescence est là, je tiens à rassurer, je n'ai bu qu'un demi-verre de rouge. Heureusement, oui, ça vous avez raison. Sinon, je vous aurais fait la conférence, ma conférence préférée, sur l'eau ferrugineuse et la sociologie. Alors, en fait, on va travailler sur une chose, c'est justement le malentendu autour de l'adolescence dans les sociétés contemporaines. Vous avez votre vie, puis vous avez quand même sans doute remarqué que quelquefois vos parents, bon, vous tolèrent, mais qu'il peut y avoir des tensions, et que quand vous rentrez ici aussi, on considère que, bon, de toute façon, il faut bien faire avec, puisque ça s'appelle un lycée, donc il faut qu'il y ait des jeunes. Mais enfin, si les jeunes pouvaient être beaucoup plus vieux, ça serait quand même mieux. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui est que, même s'il n'y a pas du tout de guerre générationnelle dans nos sociétés, il y a quand même des tensions. Il y a quand même des tensions. Juste, je ne peux pas me priver, mais tout à l'heure, je ne sais pas si la personne est dans la salle, mais je passe près d'un groupe là, de lycéens, en buvant mon café, et j'entends quelqu'un qui dit « Mais ça va causer de quoi ?» Et tout à fait intéressant. La personne dit « Des incivilités. » Et l'autre dit non, de la jeunesse. Voilà. Donc, naturellement, on rêve que vous soyez vieux parce qu'à ce moment-là, vous ne serez pas un civil, mais vous serez civilisé. Ce n'est pas moi qui parle, hein, c'était dans l'imaginaire social. Donc, on ne va pas parler de tout ça. On va parler de qui. Alors, le problème, c'est que je ne vous connais pas chacun de vous, alors je vais être obligé de parler de moi-même. La question, c'est qui est François de Saint-Gly ? Et vous la déclinez avec chacun votre prénom. Puisqu'on est dans des sociétés, c'est parti, hein. Après 5 minutes d'échauffement, nous sommes partis. Dans la conférence, la question, une injonction sociale des sociétés, pour la plupart, en tout cas d'entre nous, nous sommes dans des sociétés qu'on appelle, en termes de jargon individualiste, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles chacun d'entre nous veut se réaliser, s'épanouir, devenir soi-même. D'ailleurs, alors, ici, je ne sais pas s'il y a eu des affichages, mais à Paris, il y a 15 jours, 3 semaines, des affiches totalement incroyables. L'armée française, vous le savez, il n'y a plus de conscription, donc cherche des volontaires. Et l'affiche, ils ont osé, hein. C'est pour vous dire à quel point l'impératif social est fort. L'affiche était le gros titre, c'est devenirsoimême.com. Et après, on voyait à côté quelqu'un en uniforme, un soldat. Bon, spontanément, en tout cas moi, pas vous, mais moi, si je veux devenir moi-même, je ne m'engage pas à l'armée, hein. Mais ils ont des problèmes, parce qu'ils m'ont consulté, ils ont des problèmes de recrutement, hein. Donc ils se sont dit, ben, on va mettre le slogan, ils essayent de faire de la vente, hein. Enfin de l'achat, là, on pourrait dire, mais... qu'est-ce que ça veut dire devenir soi-même ? Et c'est là-dessus qu'il y a un malentendu. Prenons une scène que certains d'entre vous connaissent bien. Vous arrivez éventuellement le soir, vos parents, votre mère, votre père, votre beau-père, peu importe et tout, se dit « bon, il faut quand même être bon parent et tout », et donc vous dit « comment s'est passée la journée ?» La sociologie, ça commence là. À ce moment-là, si on dit ça, c'est de demander dans le cadre d'un entretien, on va faire une toute petite réflexion et tout, c'est de dire, et vous répondez quoi à cette question ? Normalement, un certain nombre d'adolescents appellent ça la question obligatoire. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait dans la journée ? Normalement, la réponse que vous faites, parce que vous comprenez la question, qu'est-ce que tu as fait éventuellement au lycée, c'est-à-dire en tant qu'élève ? Et donc, vous allez dire, bon, je ne sais pas, ce que vous vous autorisez à dire. Alors là, il y a des variations. Vous pouvez dire, le prof est nul et injuste. Le conférencier du samedi après-midi avait bu. Vous raconterez ce que vous voudrez, ça. Normalement, dans ce tour de table, vous ne direz rien sur votre vie privée-privée. Ça, c'est pour votre blog éventuel. Et donc, qu'est-ce que tu as fait de ta journée ? Faites bien attention, parce que c'est le seul schème que vous allez apprendre en sociologie. Même des choses que vous vivez, mais la manière dont le sociologue le voit, c'est que vous avez une identité que j'appelle, disons, clivée. C'est-à-dire, vous avez une partie de vous-même que vous pensez à vous, celle que vous racontez pas spontanément à vos parents, et puis l'autre dimension de vous, les choses que, sur le fond, vous sentez quasi éventuellement obligées de dire si on vous pose la question, c'est la même chose si on dit « mais est-ce que ça va ?» ou etc. Et donc, il y a deux dimensions en nous-mêmes, ces deux dimensions qui nous appartiennent, hein. Les dimensions qu'on va appeler plus intimes éventuellement, et puis des dimensions qu'on est capable de dire, là je reste sur l'adolescence, qu'on va dire à ses parents. Si c'est une copine qui vous pose la question... Téléphone, c'est dit, imaginons qu'elle ne soit pas au même lycée que vous, elle vous appelle le soir, et vous dit qu'est-ce que tu as fait de ta journée, vous ne raconterez pas du tout la même chose. Petite parenthèse, d'ailleurs, si vous racontez la même chose, c'est que vous êtes plutôt patho, hein. Parce que ce n'est pas normal de raconter la même chose à ses copines qu'à sa mère. Donc, on a plusieurs dimensions à l'intérieur de soi-même. Et ça, c'est la source du malentendu. Pourquoi ? Parce que si on revient à ça, vos parents sur le fond, quand vous rentrez dans la famille, en tout cas ça ressort, peut-être que vous avez des parents exceptionnels, mais j'ai des doutes par rapport à ça, une partie des parents, pas simplement en France, mais encore peut-être plus en France pour d'autres raisons, sont assez obsédés scolaires. C'est-à-dire l'important, je te pose la question parce qu'il faut que tu songes à ton avenir. On fait des journées portes ouvertes, il faut que vous prévoyez votre avenir, orientation, etc. Donc, votre avenir. Sous-entendu, vous n'êtes pas capable de penser à votre avenir, et c'est là la source du malentendu, c'est les adultes qui pensent à votre avenir parce que vous pensez à autre chose. Et autre chose comme si ce n'était pas non plus votre avenir. Hein, donc, on a deux parties de soi-même, le soi intime, là on va l'appeler le soi scolaire pour l'instant. Le soi scolaire serait la préparation de l'avenir et le soi intime, on ne sait pas très bien, c'est perdre du temps encore à traîner avec les copains, etc. ou avec les copines. Alors, ma modeste contribution va être de dire qu'en fait, la partie qui paraît présente par rapport à l'avenir est aussi une préparation de soi-même et qu'on se construit aussi bien en traînant avec les copains qu'en suivant des cours. Et donc, il ne s'agit pas que de dire, attention, qu'on se construit mieux. On se construit autant, c'est-à-dire qu'il y a justement pour devenir un individu complet, devenir soi-même, il faut à la fois, il y a un ou deux mots techniques, on va à la fois s'individualiser et aussi préparer son avenir, et dans le jargon sociologique, on dirait plutôt accumuler des ressources qui pourront être placées sur le marché du travail. Mais les deux choses sont aussi importantes l'une que l'autre. Et donc, on va travailler, une fois qu'on a mis ça en place, on va voir qu'en fait, naturellement, ces deux dimensions, soit personnelles, soit scolaires, entre parenthèses, préfiguration du soi professionnel, sont des dimensions qui sont associées, puisqu'elles sont à l'intérieur de nous-mêmes. Moi aussi, on m'a présenté tout à l'heure. Vous avez écouté la présentation que vous avez eue de moi tout à l'heure, et strictement le soi professionnel, François de Singly, maîtrise de psycho, machin et tout. Vous ne savez rien de moi. Hein. De moi, entendu, en termes de mon soi personnel. On est d'accord? Quand vous êtes élève, vous êtes, ici je vois des élèves, donc vous êtes dans, on a officiellement, mais ça commence, va se compliquer après, officiellement dans l'espace, il n'y a que des soi professionnels. Ah, ils ne sont pas les mêmes positions, mais sur le fond, il y aurait ça. C'est le rêve de l'école, qu'il n'y ait que des soi scolaires. Malheureusement, ça se compliquera, vous le savez. D'ailleurs, vous y contribuez. Alors, je reviens à ça. On a ces deux dimensions. La première chose, c'est pour ça que je vais vous parler de mon adolescence, puisqu'elle est historique. Entre guillemets, j'ai eu la chance, mais je n'ai rien fait pour, hein, bien évidemment. Si vous calculez 48 plus, à ce moment-là, l'adolescence commence plutôt à 14, alors qu'aujourd'hui, elle commence beaucoup plus tôt. 14, 4, je ne suis pas très très bon, ça fait 62. 1962-1963. 1962-1963, sur la France, aux États-Unis, c'est les années 50, hein, il y a à peu près 10 ans de décalage, il y a deux choses, et deux choses qui sont strictement liées. Vous allez peut-être le comprendre si j'arrive à être clair. C'est que, en 62-63, arrive ce qu'on appelle la culture jeune. Ce qu'on appelle la culture jeune, c'est ce que vous écoutez, votre musique, qui n'est pas nécessairement celle de vos parents. Ça n'existe en France que depuis 62-63. Alors, à l'époque, il y a eu une émission, qui a été le début, qui s'appelait « Salut les copains », à 5 heures, 5 à 7. Bon, là, c'est Radio Nostalgie pour moi. Toujours avec émotion, non, je plaisante. Quoique, par principe, c'était des chansons, et j'ai lu l'autre jour une interview de celui qui dirigeait l'émission, qui ensuite a dirigé le journal, puis ensuite est devenu très riche, il a acheté Paris Match et tout, et il a dit, je n'avais donné comme consigne au photographe, parce que c'est donc devenu un journal, salut les copains, tirage prévu 80 000 exemplaires. Hein. tirage au bout du deuxième numéro, 800 000. Je n'avais donné donc à une consigne à ce photographe célèbre, si vous en parlez à certains vieux, qui s'appelle Jean-Marie Perrier, qui était très amoureux à l'époque de Françoise Hardy, faites des photos qui déplaisent aux parents. La culture jeune n'a pas d'autre définition que celle de maintenir de la distance. Donc, normalement, une bonne chanson jeune, c'est une chanson dont les parents disent « mais c'est quand même pas possible, t'as entendu le texte, il est débile hein ». Alors je ne sais pas chanter, d'ailleurs tant mieux pour vous parce que je ne vais pas le faire, mais je vais prendre des chansons quand même de mon adolescence pour voir le contenu sérieux des générations précédentes, des vieux d'aujourd'hui. Hein, il y avait une chanson qui s'appelait « Dadoun Ron Ron ». Et c'était « Dadoun Ron Ron, Dadoun Ron Ron ». Oui, « Dadoun Ron Ron, Dadoun Ron Ron ». Oui, mon amour est mort, Dadoun Ron Ron, Dadoun Ron Ron. Bon, aujourd'hui, j'écoute les chansons, le contenu ne peut pas être pire. De toute façon, on avait atteint le bas. Donc, de toute façon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'irez pas plus bas. Non, non, je parle sérieusement, on ne peut pas aller plus bas. Le problème, c'est que ça soit inaudible. Donc, que les parents disent, ça fait du bruit. Pourquoi ? Parce que la fonction, c'est de faire un mur. Le processus d'individualisation, c'est de faire un mur. Faire un mur, symboliquement, par exemple, je ne sais pas, je ne vous connais pas et tout, mais dans un certain nombre, j'en avais un, mais j'ai laissé dans mon sac à dos, j'avais amené les trucs qu'on voit dans les hôtels, vous savez, vous tournez, chambre libre, chambre occupée, ne pas déranger. Bon, ça, normalement, c'est éventuellement, si on a une chambre, on met ça sur la porte et on ne change jamais. Hein, ne pas déranger, de faire en sorte que même les parents se sentent étrangers quand ils sont dans la chambre. Le mur. Le processus d'individualisation à l'adolescence, plus à mon âge, hein, ça c'est une des grandes différences, c'est que mes parents sont morts, donc de toute façon la distance elle est faite. Mais vous, ils sont, d'une certaine façon tant mieux, encore vivants pour la plupart. Et donc, faites bien attention, la construction de l'identité, parce que je n'ai pas oublié le sujet, c'est pour devenir soi-même une première condition dans ce modèle, c'est de ne pas être défini d'abord et ne pas être défini avant tout comme fils ou comme fille d'eux. Ça ne veut pas dire rejeter toujours le fait d'être fils d'eux, ça peut être très agréable à certains moments, mais c'est impossible. Je n'ai pas le temps, je pourrais vous faire l'histoire de l'individualisme en Occident depuis le XIIe siècle, c'est ça la chose. Pour que vous le compreniez très bien, c'est assez facile. Normalement, c'est toute la différence entre l'amour et le mariage arrangé. Vos parents, éventuellement, peuvent vous dire, dans certaines cultures, en tout cas dans la culture européenne, pendant très longtemps, les mariages ont été arrangés. C'est la forme normale du mariage. Normalement, on ne demande pas l'avis aux hommes et aux femmes. On décide à leur place. Mais si un jour votre mère dit « ça serait bien que tu tombes amoureux de quelqu'un » et vous donnez le nom de la personne, normalement, toujours dans le problème de la normalité, on ne peut pas devenir amoureux de cette personne puisque ça voudrait dire « je tombe amoureux en tant que fils de » ou fille de. C'est impossible. C'est impossible. En tout cas, c'est normalement un grand défi. Donc ici, pour devenir soi-même, le travail que vous avez à faire, que vous faites sans que... Il y a eu besoin de la conférence, d'où un sentiment d'assez grande inutilité en ce samedi après-midi, c'est que de toute façon, que vous ayez les concepts ou non, vous faites ce travail de mise à distance des parents. Alors il y a différentes formes, plus ou moins douces, il y en a qui sont plus négociateurs, il y en a qui vont, on pourrait refaire les histoires, là je vois une jeune fille au premier rang juste devant moi, qui ne me regarde pas, mais qui sait que je la regarde, qu'un piercing. Bon, le piercing, est-ce que vous avez été faire votre piercing avec votre mère ? Non. Normalement, on ne fait pas les piercings avec sa mère. Quand on était plus dans le temps, quand les jeunes filles se faisaient percer un petit trou là, c'était le plus fréquemment avec la mère, mais c'était beaucoup plus jeune. Le piercing est une des choses, c'est la seule chose que je vous demanderais, même s'il n'y a pas de fiche. Même pour le professeur de vente. Parce que faites bien attention, on peut s'individualiser sur tout. Vous ne pouvez pas voir dans la rue quelqu'un qui serait individualisé. Prenons l'exemple de ce monsieur. Soit il met un nœud papillon parce que papa en avait mis un, grand-père en avait mis un et qu'il veut représenter la lignée familiale. Il a le droit. Mais à ce moment-là, j'aurais des doutes en tant qu'individu. Mais il peut au contraire avoir eu un père ou un grand-père un peu anarchiste qui a dit « jamais de cravate », etc. Qu'est-ce que c'est que ces uniformes et tout ? S'il a un père anarchiste qui porte un nœud papillon, alors son nœud papillon peut devenir un instrument d'individualisation. Très important ce que je dis. Quand on voit une croix ici, une croix, mais ça peut être un croissant, peu importe, hein, toutes les religions. Moi, j'étais élevé dans le truc catho, donc je vais prendre mes réflexes à moi. On ne peut pas savoir ce que la personne peut le porter en tant que fils ou fille d'eux. C'est une petite croix que j'ai eue à la naissance. Je la porte toujours, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais peu importe. À ce moment-là, c'est une croix, symbole de la filiation. Et ça peut être, j'ai 18 ans, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, et je mets, j'ai pas osé parce que je voulais pas me fâcher avec l'organisatrice, mais j'ai failli venir avec des t-shirts, parce que j'ai des t-shirts avec des slogans. C'est, ben oui, si je mets un slogan et tout, c'est je peux affirmer par moi-même, et donc y compris par des symboles religieux, quelque chose de moi-même. Donc vous voyez que le critère, faites bien attention, c'est pas le contenu, c'est en fin de compte savoir s'il y a rupture ou non, c'est-à-dire si on le réassume à titre personnel. Je tiens à rassurer mon collègue chef des ventes, non pas chef, professeur des ventes, il peut même avoir eu un père qui portait un nœud papillon et quand même le réassumer à titre personnel à la condition que pendant un certain temps, il ne l'ait pas porté pour pouvoir voir s'il était capable de vivre pas simplement en tant que fils. Vous suivez à peu près ou pas ? Bon, vous pouvez transposer ça par n'importe quoi. Alors, je vous disais 62-63... Donc moi j'étais, c'est pas très cultivé parce qu'il y avait des bagarres, il y avait quand même de la hiérarchie. On va pas en parler beaucoup, mais même à l'intérieur de la culture jeune, tout n'est pas équivalent socialement. Hein. Moi mon épouse, plus chic, pas socialement mais culturellement, donc elle était plus Beatles et tout. Nous on trouvait ça compliqué, on comprenait pas. Donc nous c'était des textes, vous avez compris, sans contenu, chantés en français. Donc c'était Johnny. Oui, il a pas beaucoup monté de niveau, on est d'accord. Mais on n'est pas obligé de progresser dans la vie. Hein. Sylvie Vartan et tout, puisqu'ils sont mariés et tout. Alors, pourquoi je parle de 62-63 est très important dans notre sujet, c'est que c'est juste à ce moment-là, et vous ne le savez pas, vous ne saviez pas non plus 62, hein, mais sur le, forcément c'est les copains, c'est 62-63, c'est une date historique de l'histoire de la scolarisation en France, puisque c'est l'endroit, c'est exactement la même année, il y a un miracle. C'est la même année où il y a des CES et des CEG dans toute la France. Parce qu'avant, il y avait de temps en temps un lycée. Un lycée public, au départ, il y en avait un par département. Ben, vu le nombre de fils de bourgeois qu'il y avait dans le département, un, ça a été largement suffisant. Puis après, on a élargi la petite bourgeoisie pour aller vite. Donc, on en mettait deux ou trois. CES, CEG, c'est le fait que tout le monde rentre en sixième. Faites bien attention. Sociologie, l'adolescence n'existe qu'à partir de ce moment-là. L'adolescence avant 62-63, ça n'existe pas. Contrairement à ce que vous direz, avant c'était la jeunesse. Qu'est-ce que l'adolescence ? Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas la puberté. Il y a eu de la puberté dans l'histoire du monde, sans doute, ces choses-là et tout. Non, la question, c'est l'invention d'un âge où, en fait... Et vous le savez, c'est une partie d'ailleurs éventuellement de vos problèmes. La scolarisation, c'est la dépendance, c'est un lien de dépendance, c'est-à-dire que, n'oubliez pas, dans les, je ne me rappelle plus des dates, hein, mais avant la scolarisation était obligatoire jusqu'à 11 ans, puis après jusqu'à 14 ans, puis après 16, 18, enfin peu importe. Vous, vous êtes normalement enfermé, pour certains, dans l'institution scolaire de 2 à 18 ans. Alors à 2 ans, vous ne vous posez pas la question. Mais après, pour certains qui vont faire des études supérieures, vous vous rendez compte, hein, jusqu'à 25. Ça veut dire qu'en fait, par définition, vous restez dans un lien de dépendance par rapport à vos parents. Dans les années 30, la plupart des gens de milieu populaire, à 11-12 ans, ils sont au boulot et ils gagnent leur vie. Ils ne sont pas dépendants de leurs parents. grand changement. Et ça, c'est un paradoxe de notre société. Au moment, paradoxe, j'en sais rien, contradiction, on invente la dépendance longue de l'adolescence et en même temps, on nous donne, juste au même moment, alors là, il peut y avoir plusieurs versions, mais on nous donne la culture jeune. Tu vas rester, François de Saint-Guy, 10 ans de plus dépendant de tes parents, mais pendant 10 ans, tu pourras te raconter l'histoire que tu n'es pas tes parents parce que je vais écouter. Salut les copains. Tension. Donc au moment où la culture scolaire va chercher à s'imposer à l'ensemble de la nation, en même temps, on va lui donner les moyens, en même temps, objectivement, les moyens par lesquels il prendra la distance par rapport à cette culture. Donc ça naît en même temps, et en même temps depuis le début, c'est-à-dire depuis les années 60, mais aujourd'hui peut-être encore plus, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il y a une contradiction entre les deux. Une contradiction qu'on peut des fois régler. Hein. On peut écouter « Salut les copains » en faisant cette voix. Maintenant, aujourd'hui, vous ne faites plus ça. Alors mes parents ne comprenaient pas. Hein. Donc s'ils rentraient dans la chambre, j'éteignais. Petite parenthèse que je n'ai pas le temps de tout développer. On pourrait aussi faire un discours. Il faut des conditions matérielles. Tout à l'heure, il paraît qu'il y a une exposition sur les maisons domotiques ou je ne sais pas quoi. Il faut, en 62-63, il faut une autre condition pour que tout ça soit possible. Mes frères aînés qui ont 10 ans de plus, eux, ils n'ont pas pu avoir ça. Parce qu'il y avait une chose qui n'existait pas à la maison. C'est qu'on avait un poste de radio. Oh, je le revois, le poste de radio, en haut de la petite salle à manger. On montait sur le truc et on écoutait Radio Luxembourg, 13h. 13h les infos. On écoutait aussi un feuilleton qui s'appelait « Ça va bouillir ». Et donc, comment voulez-vous que j'écoute de la musique jeune s'il y a un poste de radio que ma mère écoute? Puisque par définition, pour que j'écoute ma musique, il faut que j'ai mon... Donc, on peut faire aussi une sociologie de l'individualisation par le marché. Hein, les portables sont naturellement... Après, il y a eu le téléphone. Là, vous allez voir l'âge, hein. Le téléphone familial a dû arriver quand j'avais 15-16 ans. Et un de mes souvenirs traumatisants, que j'étais amoureux d'une fille en terminale, c'était pas précoce. Paf, le dimanche après-midi, elle m'appelle. Je lui avais pourtant donné des consignes. Elle m'appelle. Et là, le fil téléphonique était court à l'époque. Il était sur le bureau de mon père. Ah putain, alors je décroche. « Bonjour Gilles, je me rappelle qui j'ai tout de suite, ça j'ai quand même eu, il n'y a pas que vous, hein, comme, on a tous été, bonjour Gilles et tout, et je passais te voir et tout. » Donc elle me donne un rendez-vous, on va. Je me dis si jamais pendant ce temps-là, Gilles sonne la porte. Bon, il n'a pas sonné à la porte, donc tout va bien. Mais il n'y avait même pas moyen, après la deuxième période, ça a été le téléphone avec le fil long, la salle de bain. Le nombre d'heures passées dans la salle de bain dans la génération suivante par les adolescents. Puis maintenant, vous ne vous posez pas ces questions. Il y en a qui s'endorment au lit avec, en téléphonant, au casque. Donc il faut des conditions aussi matérielles. Hein. Je veux dire, l'individualisme, ce n'est pas uniquement des idées. Il faut des conditions matérielles. Là, je reviens. Il y a une tension, puisque vous voyez qu'au même moment, vous allez avoir le droit, quand je dis vous, c'est parce que c'est à votre âge, mais nous, pareil, on va avoir le droit d'avoir, une certaine façon, son monde, ses copains, sa musique, etc. Et en même temps, le prolongement d'un monde dépendant, séparé, qui est ce monde scolaire. Et on revient à la contradiction initiale. Toute bête. Je ne pense pas qu'il y ait eu, ça fait bizarre, mais de gros changements entre vous et moi par rapport à ça. C'est-à-dire que les parents et mes parents étaient tracassés par mes études. On pourrait être déçu parce qu'en fin de compte, sociaux, ce n'était pas vraiment ce qu'ils auraient voulu, hein. Donc, eux pensaient à moi en termes d'avenir, et moi, je pensais à moi. À moi, pas en tant que fils d'eux. Et donc, avec Johnny. Eux, le code, comme il oublie son avenir, il ne se construit pas lui-même. Et le jeune, lui, a l'impression qu'il y a un ordre qui est imposé et que, à juste titre, d'une certaine façon, on se construit aussi en se construisant dans son présent. Alors c'est à ce moment-là qu'on pourrait parler d'Hermann Hesse, mais on ne va pas en parler, parce que, et c'est vous qui me dites le temps, hein, moi je ne regarde pas l'heure. Hein. 3 minutes, il reste. Non, non, ça va. Il ne faut pas trop longtemps parce que la socio, ça va. Et je vous remercie, vous êtes, vous faites semblant de suivre, donc c'est bien. Et moi, je fais semblant de parler, donc le malentendu est total. Non, je plaisante. Alors, ici, vous voyez qu'on a un clivage qui est à la fois utile. J'ai une partie de mon soi intime. Le problème, parce qu'il y en a un quand même, hein. Problème, d'une certaine façon, c'est ensuite l'interprétation de ce clivage. Alors, vous avez des nostalgiques. Là, j'en ai une citation d'une de mes ennemies. Parce qu'on peut être intellectuel et avoir des ennemis, hein. Fichtenkraut, pour les adultes, Fichtenkraut, Daniel Salnave. Et par exemple, Daniel Salnave, qui est une prof de littérature très nostalgique, aimerait que tout le monde parle latin, et dit « Le malheur de la jeune génération ». Très intéressant, il y a un discours de ce type d'adulte. Quel est le malheur? Quel est votre malheur? Eh bien, elle l'a écrit. Enfermé dans son monde, le jeune est enfermé dans la triste prison du présent. Bah, elle trouve ça triste, mais normalement, je ne sais pas vous, mais quand moi j'étais enfermé dans la triste prison de mon présent, j'étais très heureux. Si on est heureux dans la prison, c'est que ce n'est pas vraiment une prison, hein. C'est celui qui regarde qui s'est trompé. Et inversement, heureusement qu'il y a d'autres interprétations, donc là on n'a pas le temps, mais on pourrait faire les luttes autour de l'interprétation de l'adolescence. Un très joli roman, il y en a plusieurs, de Sylvie Robic, « Les doigts écorchés ». C'est juste une petite citation qui permet d'être à l'opposé de l'autre. D'un côté, il y a quelqu'un qui a l'impression qu'on est enfermé dans le présent à écouter des conneries, sans comprendre que le sens de la pratique n'est naturellement pas forcément dans le contenu. D'ailleurs, est-ce que quand on va à la messe, est-ce qu'on n'a jamais vu Dieu non plus, hein, on n'en sait rien. Donc ça nous sert éventuellement, c'est une histoire qu'on se raconte. Le rock, dit-elle, Sylvie Robic. Le rock a été inventé, bon, elle pousse un tout petit peu l'expression, mais elle est jolie, a été inventé pour sortir les petits garçons des caresses maternelles. Le rock est une guerre inévitable pour échapper à sa mère. La musique se met à nous définir entièrement. Si la musique se met à nous définir entièrement, vous voyez l'angoisse de l'autre côté, le entièrement. Donc ici, le problème que vous avez normalement à peu près tous, c'est quel équilibre entre les deux parties de soi, le entièrement. C'est vrai que, normalement, par rapport à une définition de soi-même, François de Saint-Guy, ce n'est pas que son identité intime, ce que je suis, éventuellement mes qualités et tout. C'est quand même aussi le fait que j'ai fait des études de sociaux, que j'ai du boulot et tout. Donc le soi n'est pas que le soi intime. C'est là qu'il y a un malentendu aussi. Donc les parents ou les adultes ont tort lorsqu'ils vous disent « ton avenir, c'est de ce côté-là entièrement. » Et tout le reste, c'est du temps perdu, qu'on te tolère un peu. Mais parce qu'on sait que de toute façon, on ne peut pas te réprimer suffisamment parce que ça ne marche plus. De l'autre côté, si on est entièrement défini par ce côté-là, il va y avoir problème puisqu'on ne peut pas être défini uniquement forcément dans l'existence, dans une société donnée, par l'appartenance à une culture générationnelle. Donc, vous avez compris, il n'y a pas de solution, mais il faut faire un certain équilibre. Un certain équilibre dont ni les adultes ni les jeunes, à ma connaissance, n'ont les règles. Et c'est aussi pour ça qu'on s'invente soi-même par cet équilibre. Alors, pour finir... j'avais quand même préparé une citation de Durkheim, parce qu'il faut rendre hommage, comme on appelle ça au Tour de France, au régional de l'étape. Au régional de l'étape, Durkheim dit, c'est une chose, je ne vais pas vous lire la citation totale, mais il dit, c'était la conception traditionnelle de la socialisation républicaine et religieuse, d'ailleurs, il n'y a pas de différence à ce niveau-là, c'est dire, en chacun de nous, c'est pour ça que l'école est centrale. Vous allez voir que c'est pour ça que l'école est déstabilisée aujourd'hui. En chacun de nous, il y a de l'homme d'hier. Et il dit même, par la force des choses, l'homme d'hier en nous, la femme d'hier, hein, ça revient au même, hein, si vous changez. Mais à l'époque, on ne dit pas individu. Et par la force des choses prédominant en nous, le présent n'est que bien peu de choses. Après, il dit quand même une phrase, c'est suivant des proportions variables. Et donc, à mon avis, c'est mon interprétation, le grand changement des sociétés contemporaines, c'est le poids relatif de la logique qu'on appelle de la transmission, qui est quand même la logique de la transmission, c'est la logique du passé, c'est ce que d'autres ont accumulé pour vous avant, et la logique du présent. Dans la représentation de l'éducation qu'on va appeler traditionnelle, je vais trop vite, il y a plus de passé que de présent. C'est vraiment une toute petite part. Aujourd'hui, on est dans des sociétés dans lesquelles ce poids du présent, donc ici ce que j'appelle la culture jeune, hein, puisque c'est la culture générationnelle, c'est pas le coup d'avant parce que ça n'existait pas avant, va avoir de plus en plus d'importance. D'où soit inquiétude, soit il y a inquiétude si on est persuadé que la société ne change pas. Il n'y a pas d'inquiétude, ce qui est mon cas, si on pense qu'on a aussi changé de société. Donc si les adolescents ont changé, si d'ailleurs la plupart d'entre nous changeons, c'est parce que l'ensemble de la société change. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va terminer par un tout petit schéma théorique. Il faut être courageux samedi après-midi. Mais il y a un ouvrage classique d'une ethnologue qui s'appelle Margaret Mead et qui avait dit qu'en fait, dans les sociétés traditionnelles, je vous passe les termes par lesquels elle utilise, parce que je n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi elle avait utilisé ces mots, mais elle dit, dans une société traditionnelle, le pouvoir est vertical. Et normalement, une bonne société, c'est une société dans laquelle la jeunesse a intériorisé le savoir des vieux. Alors avant, ça se faisait sans l'école. Après, il y a l'école, on apprend le savoir. J'ouvre la parenthèse, hein, à l'université, on apprend en première année Durkheim, fin 19e. Les sociologues qui sortent au bout de 3-4 ans, ils ne savent pas le nom d'un sociologue vivant. On apprend le passé. Ça marche dans une société dans laquelle on est persuadé que l'avenir va dépendre fortement du passé. Or, la seule chose qui est certaine aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas du tout certain que la société demain sera comme celle d'aujourd'hui, et on est certain absolument qu'elle ne sera pas comme celle d'hier. Donc, d'une certaine façon, diminuer le poids de l'homme d'hier pour se préparer demain par rapport à nos sociétés n'est pas forcément catastrophique. Et donc, si on élimine cette logique dominante de la transmission, par quoi est-elle remplacée, hein? Et c'est là-dessus, sur le fond, que moi, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de... s'il y avait débat ou des questions, parce qu'il est clair que par rapport à ça, donc la première conséquence, vous l'avez vu, c'est la crise de l'école. Hein. Ce n'est pas que vous soyez plus insupportable ou que nous, on était vraiment formidables. C'est que, évidemment, nous sommes dans des sociétés où la logique de la transmission est déstabilisée. Premier point. Le deuxième, c'est y a-t-il quelque chose à la place? Et là, il y a eu une surprise. Il y a eu une surprise parce que, y compris chez les sociologues, pas plus intelligents que les autres. Nous, on était persuadés. Je vais revenir, mais c'est de manière humoristique. On était persuadés, pas moi en tant que personne, là, mais ceux qui commentaient la société dans les années 60, que Johnny, bon, d'accord, c'est de la connerie, mais ça va durer 2 ans. Tout ça allait disparaître. Si vous relisez la presse de l'époque, je pense Johnny d'ailleurs lui-même, qui doit être très étonné, ça a peut-être d'ailleurs contribué à le déstabiliser, mais c'est une autre question, c'est de penser que la culture jeune, ça disparaissait quand on était plus jeune. Donc, par exemple, quand on lit les trucs de sociaux, des trucs techniques, les jeunes, maintenant, font de la vidéo. Le jour où ils sont adultes, toc, ils laisseront tomber ça, et puis ils deviendront sérieux. Donc, crise d'adolescence. Et le problème, c'est que il y en a toujours qui se shootent à la culture jeune. Donc, moi, c'est plus la culture jeune que j'écoute, c'est ma culture générationnelle. Hein, autre notion. On est passé de la culture jeune au fait que vos parents, au moins un certain nombre d'entre vous, ont une culture qu'ils ont eue jeune et qu'ils conservent et qui est de la culture générationnelle. Moi, j'ai des collègues maîtres de conf qui passent des heures à jouer à des jeux vidéo. Je ne vais pas leur dire, mais tu ferais bien de quitter ton adolescence. Ils sont dans cette culture générationnelle. Vous aurez, votre culture jeune deviendra générationnelle. Donc, en fait, on se trouve dans une société assez compliquée par rapport à ça. Il y a la culture scolaire qui, dans tous les entretiens, est perçue comme la culture des vieux. Mais pas des vieux forcément en tant qu'individu, mais une culture vieille. Il y a la culture générationnelle des parents, puis il y a la culture générationnelle jeune des jeunes. Comment tout ça s'articule, on ne sait pas. Mais ce qui est clair aujourd'hui, de mon point de vue, c'est que, y compris l'éducation, mais ça ne va pas être notre projet ici, mais je vous l'indique quand même, c'est que nous sommes rentrés dans des sociétés où la culture générationnelle n'est pas forcément devenue dominante, mais elle est devenue centrale. Centrale. Les sociologues ont mis beaucoup de temps. Moi, j'ai été élevé par des sociologues qui s'appellent Bourdieu, Passeron et tout, pensaient qu'il y avait une grande culture, on n'appelle pas scolaire, mais légitime, puis qu'il y avait des trucs comme ça, minables. On voit aujourd'hui que, de toute façon, même les gens, entre guillemets, cultivés, ils conservent leur culture générationnelle. Et donc ici, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans notre société? Comment on repense les différentes institutions familiales, de travail et l'école? Je terminerai juste par cette question terrible pour l'institution scolaire. Comment l'institution scolaire peut fonctionner aujourd'hui avec des jeunes qui, à l'intérieur d'eux-mêmes, sont persuadés que pour devenir eux-mêmes, il faut qu'ils conservent cette identité que j'ai appelée un, le soi, et que ce soi est essentiellement constitué d'une culture générationnelle. Si vous avez vu beaucoup de culture générationnelle dans les murs des lycées, vous êtes vraiment clairvoyant. Je vous remercie. C'est fini, hein ? On applaudit.
Propre adolescence, vous dites avant, effectivement, ça n'existait pas. Les enfants passaient leur certificat d'études souvent quand ils l'avaient et ils partaient soit au champ, soit à l'usine et ils rentraient directement dans la vie active. Et puis il y a une scission, un clivage qui se fait à partir effectivement des années 60. Moi je suis née en 62.
62 ?
Oui.
Oh, et ça c'est de la chance.
À partir de cette époque-là, effectivement, on prévoit que.
On prévoit pas. Si je comprends bien votre question, il n'y a pas de prévision.
Ça arrive comment? Parce que
ça arrive, ça c'est le mystère. Daniel Filipacchi, quand il fait saluer les copains, c'est normal. Il dit pas, il y a les sixièmes, je vais compenser par une théorie et tout. Les individus, ça c'est une belle question. Nous, on vient toujours après. Moi j'ai vécu 62, 63, rien de ça j'ai compris. Hein. Comme tout le monde d'ailleurs, on n'a rien compris bien évidemment. Au mieux, on a compris qu'il se passait quelque chose. Mais c'est tout. Même sur ce point du rapprochement entre 62 et 63, ce n'est pas pour dire, mais je pense être le premier à l'avoir marqué. Mais je l'ai marqué 30 ans après. Personne ne l'avait vu avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, je pense qu'on ne peut pas. On peut juste se dire, dans l'état actuel, ce qu'on a fait comme progrès, entre guillemets, de compréhension, c'est ce qu'on a appelé culture jeune, est devenu incontestablement. De toute façon, vous le verrez, hein, parce que la musique que vous aimez, ça ne sera pas la musique de vos enfants. Donc vous serez obligé de faire comme moi. À ce moment-là, je serai mort, mais sinon, je vous tirerai la langue. Moi, qu'est-ce qui se passe? De temps en temps, je me replonge dans ma culture générationnelle. Ça s'appelle pour l'instant Radio Nostalgie. Vous aurez vos émissions de Radio Nostalgie. Mes enfants, ils se sont. Ma fille aînée s'était shootée à Gloubi, je ne sais plus comment là. Casimir. Et vous voyez des jeunes de 30 ans qui font des fêtes Casimir. Au moment où on a regardé Casimir ensemble, jamais on s'est dit à 30 ans, donc ça n'a pas de prévision. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, et pour des raisons qui ne sont pas uniquement. Comme ça, pour frimer et tout. C'est de toute façon la plupart des biens qu'on prévoit. Il faut penser à l'avenir de la société. Vous savez que l'avenir des sociétés occidentales n'est pas la plus certaine, d'une certaine façon. Et pas, on ne va pas toujours faire que du Vuitton, parce que sinon, hein, vous savez qu'en partie, l'avenir de l'Europe, ça peut être de faire du musée et du luxe. Donc on sera une annexe de la Chine par rapport à ça, ou du Japon. Donc ici, il faut créer. L'intime conviction qu'on voit se mettre en place, c'est que les logiques même de création et de repenser ne sont pas faites uniquement dans la logique purement de la transmission, mais aussi à partir de très fortes connaissances des cultures générationnelles.
Parce que là, on a l'impression...
Pour dire, les plus grands en informatique ont tous été des jeunes qui étaient assez bizarrement scolarisés parce qu'ils étaient complètement dans l'autre culture, hein, générationnelle, dont à l'époque, je ne me moque pas, si ça avait été mes enfants, j'aurais été très inquiet. J'aurais dit « prépare ton avenir ». Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais parent, j'habitais à Angers. On avait des amis et le fils, dans ces années-là, a commencé à se shooter au manga. Mais on est en 76. Et pas aujourd'hui, il n'y en avait pas un rayon. Hein. Donc il lisait les mangas japonais. Bah, il bricolait s'il n'avait pas appris le japonais. Alors, je me rappelle, j'en avais demandé en cachette, j'ai eu un des premiers mangas et tout. Les parents inquiets faisaient des prières. Ça y est, le destin de notre fils aîné est fini. Oui, sauf qu'il était à l'avant-garde, donc il faut des conditions, il faut travailler. Mais il a travaillé dans cette culture, il a traduit les mangas, les films de mangas. Un jour, j'ai visité ses studios à Paris. C'est autre chose que la réussite de François de Saint-Gly. Hein. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, pour une part, dans le marché de la modernité, le marché se fait à partir aussi de la culture générationnelle. Mais les prévisions...
On a l'impression qu'en fait, tous ces ados...
Pourquoi vous partez là-bas?
Tous ces ados sont des cibles marketing... Et tout est fait en prévision de dans les 10, 15 années à venir, pour que ce soit la norme, voilà.
Oui. Ce qu'il faut se dire, c'est que par rapport à ça, le marché, si on prend les luttes entre les institutions, le marché a compris bien avant l'institution scolaire ce qui se passait. Ça, très très vite, eux, ils ont compris. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, quelles que soient vos opinions politiques, le capitalisme est intelligent. Parce qu'il maîtrise le marché. Non, juste sur ce point. Donc la seule réponse, ce n'est pas de les dénoncer, c'est de dire éventuellement si vous pensez qu'il y a d'autres formes de réalisation de soi, c'est lesquelles on propose, mais de toute façon on ne changera pas, parce que ce n'est pas l'histoire de l'individu, ce n'est pas l'histoire du capitalisme, c'est l'histoire de devenir soi-même. C'est une autre histoire. Philosophie des lumières. On ne va pas refaire toute cette histoire. Par rapport à ça, il faut trouver des moyens d'expression personnelle. Le problème de la culture pour aller vite scolaire, c'est qu'elle est construite comme quelque chose qui n'est pas forcément inutile, mais qui n'est pas perçu au centre, à part quelques jeunes filles. Il y a des tout petits groupes de gens qui arrivent à faire la jonction, mais la plupart, hein, dans les adolescents, c'était encore bien pire que je ne pensais. Quel que soit le niveau de la famille, hein, même si la famille est très cultivée, c'est le fait qu'on accepte éventuellement l'autre définition, mais elle est pensée comme hétéronome. Donc ici, il n'y a pas de réponse. À ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de réponse sociale.
Oui, mais disons que c'est vrai que ça crée beaucoup d'inquiétude, hein, dans le système scolaire, se dire qu'on va devenir une culture générationnelle, on ne va pas réussir à intégrer complètement le monde. Il va falloir vraiment qu'on évolue, parce que c'est vrai que ça devient quand même inquiétant. L'autre culture prend tellement de place et qu'en fait, nous, on n'arrive pas forcément à les intégrer, à les motiver. On arrive à avoir de bonnes relations, je crois, aujourd'hui, entre les professeurs, entre les adultes et les enfants. Je crois que ça, on y arrive. Mais c'est vrai que, surtout, les questions qu'on va faire pour réussir à se rencontrer à nouveau,
voilà.
Le clivage est aussi important.
Très important. Vous l'avez bien dit. Dans votre phrase, tout est dit. Oui. Non, mais qui est le sens à leur scolarité. Le problème, c'est à quelles conditions la scolarité dans laquelle je suis, si je suis un élève, devient ma scolarité. C'est votre question. Tant qu'on ne travaillera pas là-dessus, qu'on travaillera sur le programme, ou je ne sais pas quoi, la question, elle est centrale. C'est à quelles conditions on peut dire « je ». La condition pour devenir soi-même, c'est de pouvoir dire « je » quand on agit. Tant qu'on dit « j'agis en tant que fils de », actuellement, 90% des collégiens, quand ils rentrent au collège, ils rentrent en tant que fils et fille de. Même s'ils sont déguisés, entre guillemets, Et donc on croit voir des jeunes rentrer, mais on rencontre des délégués. Essentiellement en classe, nous avons des délégués des parents, des délégués de la famille. À ce moment-là, quand vous êtes délégué pour quelque chose, vous faites le travail moyennement. C'est normal. Vous le faites bien si vous le faites à titre personnel. Donc la question, c'est comment transformer. Donc c'est une des réponses, qui ne va pas forcément vous plaire, mais moi je suis prof, il ne faut pas l'oublier. Donc je connais ça, je vois bien à la fac. Je vais vous raconter une histoire. Une des solutions, il n'y en a pas deux. C'est pour ça que j'avais fait ma comparaison avec l'Allemagne. En France, je n'ai jamais vu dans l'enquête, et même à l'extérieur de l'enquête, par exemple, un jeune qui rentre en sixième et qui choisirait ses options de langue. Ah, là, c'est ton avenir. Vous avez déjà vu un jeune qui volontairement choisirait de faire l'allemand ? Je m'excuse, là, ce n'est pas lycée professionnel forcément, mais c'est par rapport à ça. Si on veut, c'est hiérarchisé, les parents se disent, mon Dieu, c'est l'avenir. S'il a les moyens de faire allemand, paf, et tout. Qu'il aime ou qu'il n'aime pas allemand, je n'ai jamais vu quelqu'un qui dirait, je fais de l'allemand parce que j'aime l'allemand. Si, certains peut-être de vous, parce que vous avez écouté Tokyo Hotel, et qu'à ce moment-là, on l'a vu, ça a doublé le chiffre. Eh bien, voilà. Eh bien, vous avez bien des choses, ça se travaille. Parce que là, à ce moment-là, ils ont pu dire « je ». Mais si c'est pour... Quand je vois, moi j'ai fait 10 ans d'anglais, j'ai la haine, parce qu'en plus je suis handicapé. Mais il fallait voir le texte qu'on a étudié pendant plusieurs... J'en sais rien si c'est vrai ou pas, mais moi j'ai le sentiment que ça a duré des années. Un texte à la con. Enfin, je veux dire, comment je pouvais dire « je » sur un texte anglais comme ça ? Aucun sens. Donc si on ne peut pas dire « je », ça c'est le premier point. Je vais prendre l'exemple de la fac pour vous dégager, vous. Alors nous, on a mis du temps à comprendre tout ça. Bon, heureusement, le désordre vient toujours de l'extérieur. Donc par exemple, le ministère nous a imposé le fait qu'un étudiant peut partir 6 mois. Erasmus, ça s'appelle. Donc il est inscrit à ma fac, 6 mois, il va à Londres. Mettons. Bon. Alors, là, vous voyez bien que nous, on se disait, parce que c'est la conception, elle est hiérarchique derrière tout ça. Parce qu'il ne faut pas se cacher, Derrière ça, c'est l'enjeu de la hiérarchie. Moi, je sais ce qu'un bon étudiant doit apprendre. Je suis plus savant que mes étudiants, mais est-ce que je sais ce qu'ils doivent apprendre, eux, à titre personnel ? C'est ça la question. Alors, avant, on faisait un chemin. Et donc, on ne pouvait pas faire la troisième étape avant d'avoir fait la deuxième étape. Mais quand mes étudiants partent, il y en a qui arrivent. Il y en a qui arrivent. Je ne peux pas leur dire « vous arrivez au quatrième semestre ». Vous retournez au deuxième semestre, on vous verra dans 2 semestres, puisque dans un semestre, ils sont partis, puisqu'ils viennent de Madrid. Vous êtes d'accord ? Donc, ils viennent. Donc, par exemple, l'idée du chemin progressif qui est au fondement de notre supériorité de prof, choc, cassé. Alors, naturellement, on verrouille, parce qu'on est tous verrouilleurs. Alors, par exemple, un truc aberrant, le ministère nous a imposé le fait que les étudiants... doivent pouvoir, vous connaissez, commencer à connaître ça un peu, individualisation des parcours et tout. Et donc, on a inventé, grâce à 68, des unités de valeur libres. Eh bien, les profs du supérieur, à mon avis, les profs du secondaire, parce qu'on est tous de même nature, même ceux qui portent des nœuds papillons ne sont pas mieux que les autres. Il faut toujours avoir une tête de... Et alors... Chut ! Le micro... Eh bien, donc, on l'a dit, il y a des unités libres. C'est obligatoire. Pour se faire valider au ministère, on doit faire des plannings, on met unité tronc commun, on ne va pas dire valeur obligatoire, parce que maintenant, il faut avoir l'air moderne. Donc, on met tronc commun, ça veut dire obligatoire. Et on a inventé. Et tant qu'on inventera ça, l'école sera en crise, et c'est tant mieux. Parce qu'il va falloir quand même changer. On a inventé, j'en suis malade, parce que je suis dans le système. Les valeurs, les unités libres obligatoires. Ça, c'est bien. Ça, c'est un compromis à la française. Vous êtes libre de choisir cette unité-là. Mais personne... qui est dupe de ça ? Comment voulez-vous dire ? C'est la même chose. Je travaille sur les adolescents. C'est la même chose. Quand on vous dit, le mercredi après-midi, c'est libre. Vous avez les familles, on vous dit, voilà, choc, quel est ton programme ? Ils disent, mais c'est quoi le temps libre ? Là, j'ai des très jolies bagarres. Donc, ils peuvent dire, par exemple, j'ai plusieurs étudiants qui allaient au catéchisme. Enfin, étudiants, non, c'est des jeunes. Qui allaient au catéchisme. Il dit, je veux bien aller au catéchisme si j'y vais en tant que fille d'eux. Si on dit, c'est la culture familiale, c'est comme ça, dans notre famille, on doit aller au catéchisme. Je veux bien. Mais que t'aies le culot de dire que c'est sur mon temps libre, non. Donc je n'irai pas en tant que temps libre. Mais le temps libre, quand on fait les enquêtes, le temps libre, il est pas, le temps libre est quand même dans un certain nombre de familles obligatoires. Donc les questions, c'est quelles conditions? Puisqu'on est dans les sociétés, la seule chose, à mon avis certaine, parce que ça, je n'ai pas le temps de vous le dire, hein, mais le pays le plus individualiste actuellement, c'est la Chine. Hein. Donc on ne peut pas se rassurer en disant que l'individualisme, c'est une mode de 20 ans, hein, et qu'on va casser 68, comme le président l'avait dit, et que tout ça serait fini. C'est une histoire longue dans laquelle, on l'a vu tout à l'heure, le marché a aussi intérêt. Donc, à tous les niveaux, l'impératif social de la planète sera, pour une très grande part, devenir soi-même. Par rapport à ça, la seule condition, c'est comment fonctionnent les institutions dans lesquelles les individus peuvent dire « je ». Alors, je ne veux pas réapprofondir, et puis il va falloir peut-être qu'on arrête, je ne regarde pas l'heure. Ah non, ça va, on a du temps. Enfin, peut-être pas vous, mais... ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est très, très, très décisif. Et donc ici, il est clair qu'il faut travailler non pas sur l'égalité, il y a des gens qui savent plus ou pas, mais des logiques dans lesquelles on dit « je ». Je vais vous donner un exemple. J'étais contraint de faire des cours aux étudiants de médecine. Donc j'ai travaillé sur la dernière loi, 2002. Ça intéresse même les plus jeunes. C'est totalement invraisemblable ce qui s'est passé. Remarquez, heureusement qu'elle n'a pas eu lieu à l'école, parce que là, il y aurait eu la révolution. Mais les médecins... qui ne sont pas des progressistes absolus comme corps social, ont quand même accepté, enfin de toute façon, ils sont obligés, c'est devenu dans la loi. Le médecin, c'est plus que le malade. Ce n'est pas contesté dans la loi. Le médecin doit exposer, en cas d'une opération grave et tout, vous le savez, c'est compliqué. Ça peut être, je t'enlève ce truc-là, tu vas gagner 20 ans, quelqu'un qui a 40 ans, hein, par exemple. Je vous enlève je connais pas bien les trucs, hein, mais je vous enlève tel morceau de votre estomac ou de machin, vous gagnez 20 ans, garantie, mais il faudra mettre une couche tous les jours. Parce que vous n'aurez plus de contrôle de tout ça. Ou on ne fait pas l'opération, on en fait une, la probabilité de la vie est peut-être que de 5 ans, mais vous n'aurez pas de couche. 5 ans sans couche, 20 ans avec couche. Eh bien, aujourd'hui, dans la loi, il est marqué que ce n'est pas le médecin. Le médecin sait la différence entre les deux opérations, mais ce n'est pas lui qui doit décider pour le malade. C'est le malade qui doit décider. Comment ça se fait que les malades... Parce que le parallèle est très vrai. Hein, j'ai retrouvé les textes. Dans les années 50, on dit que les malades sont comme des enfants, donc c'est normal que les médecins prennent les décisions, même pour les adultes, puisque les malades sont enfants. Donc on a un schéma, hein, qui est le schéma vertical. La déstabilisation d'aujourd'hui, pour dire « je », il faut forcément créer de nouvelles règles démocratiques. Je ne dis pas que ça soit simple, mais il faut le penser. D'autres institutions sont capables de le supporter. Oui, allez, excusez-moi.
L'adulte devra changer. L'adulte va devoir dire « c'est l'enfant ou l'adolescent qui décide ». Et on a peur de ça, parce que c'est toujours aussi la décision.
Non mais attendez, je suis d'accord.
On
a surtout peur en France, hein, parce que là, on n'a pas le temps. Il y a des tas d'éléments qui font qu'on a peur. Il y a des pays occidentaux qui n'ont pas de PIB beaucoup plus faible, dans lesquels les élèves... Attention, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je vais vous poser la question telle que je me la pose, moi. Non, mais pour bien voir. Moi, j'enseigne, par ailleurs aussi, l'enquête quantitative. Apprendre à faire des questionnaires, lire des tableaux et tout. C'est obligatoire. C'est obligatoire, donc j'ai mes étudiants là, je me défonce. Bon. Ils disent pas je, la moitié ne dit pas je. Il est là parce que, bon, ils sont gentils, hein, je veux dire, il n'y a pas de quoi que ce soit. Mais on le sait bien, c'est pas je. Une des difficultés à penser, c'est qu'est-ce que ça veut dire apprendre un savoir lorsqu'il n'est pas dit je. En revanche, c'est là que généralement il y a un malentendu dans les polémiques. Il est hors de question. Donc moi, d'une certaine façon, je serais pour que ça devienne libre. C'est-à-dire, pour avoir une licence de sociaux, on doit faire 15 unités de valeur dans un programme de 50. Qui inclut même d'autres disciplines. En revanche, ceux qui sont volontaires pour apprendre l'enquête par questionnaire, je sais, vous venez, vous avez dit je ne vais pas vous demander, c'est comme un professeur de piano. La personne qui veut faire du piano doit accepter éventuellement que la personne qui sait faire du piano lui apprend. La question n'est pas là. Donc il y a toujours, mais c'est démagogique, ils vont pas... Non, mais je n'ai pas dit vous, mais je lis les textes, hein, parce que les livres, ils sont en pile dans les librairies pour dénoncer. Mais non, la question, il n'y a quand même qu'une manière de lire un tableau statistique, ça peut s'apprendre. La question est de savoir, donc si... Alors, on est dans un modèle, qui est notre modèle français, universel, c'est tout le monde. C'est, on revient à l'école unique et tout, hein, je veux dire. De toute façon, il va falloir détricoter ça, c'est... Tout le monde doit apprendre socle commun, pas là de, en termes de civilité, mais socle commun en termes de connaissances. Ben oui, moi je veux bien, mais il y aura crise continuelle parce que pour l'instant, il y a des gens qui ne vous diront pas je. Alors, un de mes espoirs, pour tout vous dire, et c'est pour ça que je dis je aussi dans mes conférences, c'est volontaire. C'est que, on vous a, quand je dis vous, je vois bien les profs à l'université et tout. Quand on est en groupe, on oublie qu'on dit « je ». Et donc, si on est en groupe, on raisonne en tant que prof. Ou si on raisonne en tant que, mettons, groupe de parents, groupe de je ne sais pas quoi et tout. Et on oublie qu'en fin de compte, parce que vous, je ne vous connais pas, mais vous, à titre individuel, pas comme prof, mais à titre individuel, vous appréciez et vous revendiquez aussi de dire « je » dans votre existence. La grande rupture, on va revenir à Durkheim, juste un instant. Durkheim, il a été chargé par la République, la Troisième République, début du, fin du 19e, de faire les cours d'éducation morale, c'est pour ça qu'il monte à la Sorbonne. Quand on lit son cours, c'est fascinant. Son cours, c'est « Vous n'apprenez pas à dire je » puisque toute l'éducation, c'est strictement et seulement apprendre à obéir. Et pendant 20 ans que vous aurez fait des pompes pour obéir, il dit, alors, il y aura un miracle, vous direz je. Et il le dit, hein, comme ça. À force d'hétéronomie, vous allez apprendre à être autonome. Ça ne marche plus, ce modèle. On peut en avoir la nostalgie, on peut faire comme Picken Croft des livres et qui marche bien. Mais de toute façon, ça ne changera rien. Aujourd'hui, le modèle, c'est, on apprend progressivement à dire je. Et on n'attend pas 20 ans. Toujours la même chose, on peut en prendre plein d'exemples. Et tout ça, c'est même marqué dans la loi.
Il faut bien des structures.
Pour... Mais les structures pour devenir soi-même.
Pour le plus grand nombre, il faut...
Mais ça, les structures n'ont rien à voir avec ça. Vous pouvez faire d'autres types de structures. En Allemagne, les petits Allemands, ils choisissent leurs options. Il y a autant de structures. La question... Non. La question est du pouvoir. Et du partage du pouvoir entre adultes et jeunes. Ce n'est pas la question des structures. Les structures, elles suivront. Vous pouvez faire des structures démocratiques. Ça la démocratie, c'est de la structure. On peut faire de la structure. Ça, c'est pas le problème. C'est le statut de l'inégalité. C'est le statut de la verticalité dans nos sociétés. Hein. Difficile. Mais il n'est pas anti-structure. Hein. À mon avis, ce n'est pas un problème structure. On aura peut-être même besoin de plus de structure, mais ça, c'est... Oui, pardon. Oui, je tournais à gauche et je ne regardais pas les gens de droite. Excusez-moi. Je suis d'accord. Mais très souvent, ceux qui utilisent cet argument, pas vous, je ne vous connais pas, se trompent totalement. Parce qu'ils disent ça, et après, ils nous proposent le modèle durkheimien d'être mouton pendant 20 ans. Parce que vous n'allez pas me faire croire que le système scolaire de la 3e, 4e République, on va laisser tomber la 5e pour ne pas polémiquer, soit une logique d'éveil critique. Hein, ça, c'est le baratin total. Bien, jamais eu. Hein, jamais eu. De toute façon, vous le savez très bien. Hein. Vous faites une copie de philo qui dit le contraire de votre prof, vous vous ramassez. Ramassez totalement. Donc c'est baratin total.
Pour moi, l'éveil, c'est vraiment par la pensée,
oui.
Et jusqu'à la pensée publique,
Mais j'ai jamais dit le contraire. Hein. Oh, mais attendez, votre question est excellente. Il n'y a jamais de critique rétrospective. Jamais. La Troisième République est une invention. Attendez, alors, vous avez... merci. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Mes parents m'ont élevé ou ont élevé mes frères et sœurs dans les années 50-60 avec un autre modèle et ils ont été remarquables. En revanche, mon père aujourd'hui éduquerait, mon père ou moi-même, ou mon fils éduquerait ses enfants comme mon père, il ferait des conneries absolues. Parce que la société a changé. Donc je ne critique pas la Troisième République. Jamais. Vous ne verrez pas une ligne. C'est un modèle cohérent par rapport à la société de l'époque. Le seul critique qu'on peut faire, c'est les gens aujourd'hui qui voudraient préparer la France du 21e et du 22e siècle avec le modèle de la Troisième République. Je dis, c'est le mur. C'est le mur. Parce qu'il faut étudier l'ensemble de l'évolution de la société. Donc, il n'y a aucune critique. Ce modèle hétéronomie-autonomie, il avait une cohérence. Il avait une cohérence, il y avait des tas d'autres éléments qui jouent. Bon, vous, puisqu'on est à Bordeaux, on va rendre hommage au grand sociologue de Bordeaux vivant, François Dubay. Il y a un programme institutionnel, il a sa cohérence. Il y a une fin du programme institutionnel, pas une fin des institutions. Fin du programme institutionnel, il faut repenser, réinventer. C'est notre contrainte. Alors avec tout ça, j'ai bêtement oublié. Ah oui, ils sont consommateurs et moutons. Non, vous avez raison. Ça, c'est une fois qu'on a dit ça, le modèle. Premièrement, mais je n'ai pas eu le temps, hein, puis ça, c'est dans un autre livre, l'individualisme, l'humanisme, un tout petit livre et tout. L'histoire de tout ça, si ça arrive là, même s'il y a des accélérations, j'ai surtout parlé des années 60, c'est une histoire de 8 siècles minimum. D'accord ? Et donc ici... pas simplement d'ailleurs la philosophie des Lumières, mais notamment la philosophie des Lumières. Donc ensuite, vous avez raison. Vous avez raison dans la question. Il y avait le modèle. Je ne suis pas critique sur l'époque. Je suis critique rétrospectivement sur aujourd'hui. Il y a un modèle d'hétéronomie par la verticalité, ça c'est clair. C'est-à-dire limite de la... mais il y a plein de... C'est d'ailleurs aussi la remise en cause. Je vous signale que vous avez qu'à regarder les abstentions, hein. C'est aussi la crise de la démocratie représentative qui est strictement verticale. C'est « je m'occuperai de vous, déléguez-moi » et tout. Donc on est dans le modèle hiérarchique. Le danger, il y a danger. Le danger, il y en a deux. C'est soit de faire croire qu'on va revenir. Il n'y a plus du tout les mêmes conditions et tout. Donc on ne reviendra pas. Et donc tant qu'on se récite le catéchisme précédent, c'est le mur. Le deuxième mur, vous avez raison, c'est les illusions du dire-je. Les illusions du dire-je. Mais attention, ce que vous appelez mouton consommateur, c'est par quel moyen je peux dire-je. Mais là, il faut être sérieux. Quand vous avez des institutions qui ne vous autorisent pas à dire-je, institution A, vous la nommez comme vous voulez, mais vous avez compris, et que vous avez une institution au sens large qui s'appelle B et qui vous offre des produits par lesquels on vous dit, là, vous pouvez dire « je ». Que vous êtes dans une société globale qui, historiquement, vous autorise à dire « je », vous choisissez A ou B. Tant que vous n'aurez pas changé A, B marchera triomphalement. Et vous pourrez toujours dire le contraire et vous et pleurer. On ne pourra s'en sortir que si on change le service public. Pour aller vite. Ah ben oui. Autrement, le marché, lui, il a compris, il court devant. Hein. Regardez la Chine. Hein. La Chine, moi, quand j'ai commencé dans les années 60-70, c'était, avec le Japon, les deux pays qui ne deviendront jamais individualistes, jamais de marché. Ben, eux, ils savent faire des compromis, hein, parce qu'ils ont inventé le communisme le plus capitaliste et le plus individualiste possible. Ce n'est pas forcément le rêve, mais... ben là, c'est pareil. Hein. Si vous prenez en Chine, ils ont le droit de dire « je consomme », ils n'ont pas le droit de dire « j'ai lit ». Bon, donc ce n'est pas idéal et tout. Mais donc cette condition, c'est effectivement, aujourd'hui, comment, il faut le travailler, ça. Hein. Une des questions bêtes, hein, je m'en excuse, je vais le dire de manière provocante, mais c'est le niveau de ma réflexion aujourd'hui. Ne voyez aucune attaque par rapport à la période précédente. Dans la période précédente, on est convaincu. Non, mais c'est un autre modèle. On appelle que moi j'appelle individualisme abstrait, que notamment à l'école, on ne doit pas dire « je », on doit apprendre l'universel, la raison. Et le modèle républicain, très, très remarquablement construit. Donc c'est le problème de la laïcité. La laïcité au sens large. Une bonne école républicaine, c'est des élèves qui déposent l'ensemble de leurs habits. Pas de langue régionale, pas d'origine sociale officielle, pas de religion. Ici, nous sommes éclairés par la raison que je représente en tant que savant. OK. Le problème, c'est que, vous allez comprendre, aujourd'hui, les individus que nous sommes, c'est la même chose dans le couple. Hein, on veut dire « je », c'est pas parce qu'on se marie qu'on va abdiquer son « je ». Les femmes ont beaucoup contribué à faire tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Hein. Je parlais de l'adolescence, vous transposez, c'est la même chose sur les femmes. On ne va pas revenir à la période d'avant. Hein. Si on dit ça, la question va se poser de manière plus compliquée, parce que est-ce que tous les « je » sont équivalents? C'est ça votre question. Est-ce que toutes les expressions personnelles sont équivalentes? Mais regardez notre contradiction. Juste arrête là-dessus. Pour moi, on a une contradiction totale. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure, puis je me suis interrompu, mais tant pis, puisque vous me posez la question, je vais le faire. Parce que j'ai un cas qui est ici. Un cas qui vient de se passer en France, dans l'institution scolaire. Si je viens avec un T-shirt, j'aime Coca-Cola, je viens au lycée, et on me laisse entrer. Je viens et je mets « j'aime Mahomet, j'aime Jésus-Christ et tout », dehors. Donc l'expression personnelle de Coca-Cola est supérieure aujourd'hui en France laïque à Dieu, comme forme d'expression personnelle, par les gens qui dénoncent en même temps la dictature du marché. Je ne comprends pas. Parce qu'il n'y a qu'une solution. Si on veut revenir à avant, uniforme, y compris pour les profs, tant qu'à faire. Non, mais il y a un qui vient de se faire condamner, est-ce qu'il avait mis « Palestine vaincra », exclusion de l'école. Non, c'était... Ou « je soutiens Palestine ». Oui, non, mais je veux dire, et le type s'est fait condamner, pas le droit de ce t-shirt.
Une jeune fille, en fait.
Oui, une jeune fille, excusez-moi.
Slogan, c'était en plus pour, c'était une association représentative française.
Oui, oui, non, mais vous voyez bien ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais vu quelqu'un d'arrêté pour. On est quand même plein de marques normalement. Enfin, ça ne doit pas être plus. Et on ne fait pas de contrôle, on dit, mais tant que vous aurez. Et je veux dire, les sacs Vuitton, c'est marqué Vuitton, toc, vous le laissez à la. Ça serait bien d'ailleurs, on pourrait faire des kermesses.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire confiance à nos futurs adultes?
Non, il faut inventer. Il ne faut pas se raidir. Une des grandes difficultés, c'est se raidir. Et donc, je voulais finir. Une des grandes difficultés, à mon avis, bon, c'est compliqué, hein. C'est la structure de notre identité et les acquis. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas critique. À un moment donné, je dis Durkheim, il dit, nous devons, par exemple, à l'intérieur de chaque institution, notamment ici, les élèves sont qu'élèves, donc ils doivent apprendre la raison, éclairer A, et ils n'ont pas d'autres dimensions identitaires, dehors. Aujourd'hui, on est dans un individualisme qu'un autre sociologue avait pourtant prévu à la même époque, parce que, mais les Allemands, c'est pas un hasard, hein, par rapport à ça. Les Allemands sont plus sensibles à la différence, dit Simmel, individuelle. C'est-à-dire, j'existe à la fois par la raison. Catherine, qui est ici assise, tout à l'heure, c'est incroyable, on parle de ça, et on parle d'un romancier classique allemand, Hermann Hesse. J'ouvre. La vraie mission de tout homme. Ça, Durkheim ne peut pas écrire ça. Il a écrit même le contraire, hein, dans un texte qui s'appelle... le titre m'échappe, 1893. C'est de logique. Alors, la vraie mission de tout homme est celle-ci. Parvenir à être soi-même. Son affaire est de trouver sa propre destinée. La vie de chaque homme est un chemin vers soi-même, l'essai d'un chemin, l'esquisse d'un sentier. Donc vous avez, en fin de compte, aujourd'hui, le modèle qu'on va appeler de devenir soi-même par la logique de la raison, le savoir en étant une des expressions, et puis l'expression personnelle. Donc un des dangers aujourd'hui, c'est toujours comme ça, hein, que ça se passe dans l'histoire. C'est que pour imposer un nouveau modèle, on déstabilise le précédent. Or, il est clair que, idéalement, et je finirai par une phrase, m'excuse, hein, mais j'en sais pas beaucoup, hein, par l'idéal de Kant, qui est l'idéal de la philosophie des Lumières. L'idéal de l'individu n'est pas d'être libre, dans la philosophie des Lumières. Il est d'être autonome. Autonome, ça veut dire quoi ? Être capable de définir ses propres règles. Donc, une des logiques de l'expression personnelle, c'est définir un chemin avec éventuellement des règles, mais pas des règles hétéronomes. Et donc ici, un des objectifs, c'est qu'il va falloir apprendre de nouvelles formes, je ne dis pas qu'il faut forcément de nouvelles formes d'apprentissage de l'autonomie et pas simplement de l'expression libre, parce que l'expression libre peut conduire aussi à n'importe quoi, parce que ça peut être j'ai là tout d'un coup envie de vous tuer, donc je m'exprime personnellement, choc. Non, ça non. C'est je suis libre d'agir avec l'éclairage de la raison. Mais, et c'est là qu'il y a une rupture historique, mais rien ne dit que parce que toi tu es adulte, tu serais mieux éclairé pour connaître mon chemin. D'où la difficulté. Alors donc, c'est là qu'il y a de l'invention des nouvelles formes démocratiques. Difficile. Ah non, mais il va falloir digérer ça le dimanche hein, pour être en forme lundi matin. Je vous remercie. En Chine, on s'applaudit soi-même. Ça, c'est bien.